Laudetur Jesus Christus.
Une lueur d'espoir à Rome, l'état de santé du pape toujours stable, les médecins de l'hôpital Gemelli ont décidé hier soir de lever le pronostic réservé. Comment unifier un pays éclaté par 13 ans de guerre civile après les violences dirigées contre les Alaouites? La nouvelle présidence syrienne annonce un accord inédit avec l'administration autonome kurde du pays. Modalité implication, nous irons à Damas avant de rejoindre Alep dans notre dossier. Le frère mariste Georges Sabé nous livre son regard sur les récents massacres contre les Alaouites. L'Ukraine et les États-Unis reprennent le dialogue. Discussion ce mardi en Arabie Saoudite sur le plan de cessez-le-feu partiel. Alors que cette nuit, la capitale russe a été frappée par une rare attaque ukrainienne de dizaines de drones. Nouveau rebondissement dans les affres politiques roumaines. Le candidat pro-russe Georgescu, favori de la présidentielle, vient d'être empêché par la commission électorale de concourir. Il dépose un recours devant la Cour constitutionnelle.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Après près d'un mois d'hospitalisation pour une double pneumonie, le souverain pontife, âgé de 88 ans, n'est plus en danger imminent. Les médecins de la polyclinique Gemelli de Rome ont levé hier soir pour la première fois le pronostic réservé sur l'état de santé de François. Une première bonne nouvelle, Jean-Benoît Harel, bien que naturellement le chemin vers la guérison soit encore long.
Oui Delphine, les améliorations de la santé du pape constatées depuis quelques jours et la bonne réponse au traitement ont permis aux médecins de lever hier le pronostic réservé. Il demeure toutefois très prudent. Le tableau clinique est toujours complexe et le Saint-Père devra rester encore plusieurs jours à l'hôpital. De plus, il continue à bénéficier d'une assistance médicale pour respirer de jour comme de nuit. Alors cela fait plus de 3 semaines que le pape François est hospitalisé, soit la plus longue hospitalisation de son pontificat. Il dédie ses journées au repos, à son travail, recevant notamment le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, mais aussi à la prière. En ce début de carême, François suit par vidéo les traditionnels exercices spirituels de la curie qui se tiennent cette semaine, salle Paul VI au Vatican. Il se termine désormais chaque soir à 18h par la récitation du chapelet pour la santé du souverain pontife en communion spirituelle avec les fidèles du monde entier.
Merci Jean-Benoît Harel. Et hier, c'était le cardinal irlandais Kevin Farrell, préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, mais aussi camerlingue de la Sainte Église romaine, qui présidait la récitation de ce chapelet pour le rétablissement du pape, qui, notons-le, célèbre ce 11 mars ses 67 ans dans la compagnie de Jésus. Jorge Mario Bergoglio, âgé de 21 ans, entrait ce jour au noviciat, et quelques mois après avoir subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. C'est un tournant inattendu dans le conflit syrien. La nouvelle présidence vient d'annoncer un accord avec l'administration autonome kurde du nord et de l'est de la Syrie. En l'absence de négociations publiques, cet accord vise à instaurer une paix durable par deux biais. Intégrer les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes dans l'armée nationale et garantir les droits des Kurdes. Les explications à Damas de Mohamed Erami.
L'annonce de l'accord entre la nouvelle administration et les Kurdes a été faite de manière surprenante, sans mentionner de négociations ou de rencontres préalables. L'accord comprend 9 points, notamment l'arrêt des combats dans toutes les régions de la Syrie, l'intégration des forces démocratiques syriennes, FDS, dans l'armée officielle, la garantie des droits des Kurdes et leur représentation au sein du gouvernement, ainsi que la confirmation du refus de la division du pays. Après cette annonce, de nombreux pays ont salué l'accord, le considérant comme un pas important vers le retour de la stabilité en Syrie. Des centaines de Syriens sont également sortis dans les gouvernorats de Latakié, Deir ez-Zor ainsi qu'à Damas pour exprimer leur joie suite à l'accord. Selon des estimations non officielles, le nombre de combattants des forces démocratiques syriennes est d'environ 500 000, disposant d'armes légères, moyennes et lourdes. Mohamed Erami, Damas, Radio Vatican.
Après le blocage du carburant et de l'aide humanitaire à Gaza, la coupure de l'électricité par Israël continue de susciter des réactions, notamment des pays arabes. Ce matin, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie dénoncent une flagrante violation du droit humanitaire international. La ligne électrique en question alimentait une grande usine de dessalement d'eau bénéficiant à 600 000 personnes, désormais tournée vers l'eau des puits parfois contaminée. Le secrétaire d'État américain soutient, lui, la mesure israélienne pour forcer le Hamas à prendre une décision. L'Ukraine cherche la paix depuis la toute première seconde de la guerre. Voilà ce que disait hier Volodymyr Zelensky avant le début d'importantes discussions aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite. Le président ukrainien ne sera pas présent à cette réunion, mais des représentants de son pays y rencontreront des responsables américains, dont Marco Rubio, le secrétaire d'État. Objectif des États-Unis, définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial. L'Ukraine proposant notamment à la Russie une trêve dans les airs et en mer. À New York, Loïc Loury.
Une concession nécessaire afin de mettre fin au conflit, c'est ainsi que Marco Rubio décrit la trêve partielle proposée par l'Ukraine. Je ne dis pas que cela sera suffisant, tempère toutefois le secrétaire d'État américain. Entre Washington et Kiev, la réunion de Jeddah permettra avant tout de renouer le contact après la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky outre-Atlantique. Depuis, les États-Unis ont mis sur pause le partage de renseignements militaires avec l'Ukraine et cesser leur livraison d'armes, Marco Rubio assurant espérer que ces questions puissent être résolues. Mais côté ukrainien, les motifs d'espoir sont minces. Le pays est sous forte pression américaine. Kiev, dit Marco Rubio, doit être prête à faire des choses difficiles comme la Russie, précise-t-il. En l'état, Donald Trump a surtout acté un rapprochement historique avec Moscou, laissant entrevoir le projet d'une paix à tout prix au détriment des Ukrainiens. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Et la Russie dit avoir abattu plus de 300 drones ukrainiens cette nuit, dont près de 100 survolant de façon inédite depuis 2022 les environs de Moscou. Et tandis qu'à Paris seront réunis aujourd'hui autour du président français les chefs d'état-major des pays européens et de l'OTAN qui le souhaitent, toujours pour coordonner une réponse sur les garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Outre-Atlantique, l'île communiste de Cuba annonce avoir achevé le processus de libération de 553 prisonniers. Cette décision avait été négociée avec la médiation vaticane début janvier, parallèlement à la décision de l'ancien président américain Joe Biden de retirer l'île de la liste des pays soutenant le terrorisme. Il atterrissait de Hong Kong. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté tôt ce matin à l'aéroport de Manille. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, il est soupçonné de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre la drogue. La Chine, ce matin, dénonce le deux poids, deux mesures de la Cour pénale internationale. En Roumanie, le candidat pro-russe à la présidentielle, Calin Georgescu, s'est vu barrer sa participation aux élections à la suite d'une décision du bureau électoral central qui a provoqué l'ire de ses adeptes. Des heurts ont d'ailleurs eu lieu dans la foulée à Bucarest peu après la publication de cette décision. Alex Diaconescu.
Le bureau électoral central a refusé le dossier de Georgescu invoquant l'annulation par la Cour constitutionnelle des présidentielles de décembre dernier en raison d'ingérence extérieure, on entend ici russe, qui l'aurait favorisé. Et vu que les arrêts de la Cour constitutionnelle ont le poids d'une loi pour toute autre institution de l'État, le bureau électoral central a considéré que l'ancien candidat était incompatible avec le serment d'investiture aux fonctions de chef de l'État. L'Europe est désormais une dictature. La Roumanie est sous la tyrannie, a réagi en anglais Calin Georgescu sur le réseau X, ex-Twitter. Malgré les protestations de rue et les critiques sur les réseaux sociaux, la contestation qu'il a déposée à la Cour constitutionnelle n'a quasiment aucune chance d'être acceptée, alors qu'il fait lui-même l'objet de plusieurs dossiers pénaux pour avoir instigé au changement de l'ordre constitutionnel et pour ne pas avoir rendu public ses dépenses de campagne électorale. De toute évidence, l'épisode Calin Georgescu devrait s'arrêter prochainement. De Bucarest, Alex Diaconescu pour Radio Vatican.
80% de glace, 57 000 habitants, le territoire autonome groenlandais se choisit un nouveau parlement local ce mardi. Des élections législatives cruciales pour l'ancienne terre verte qui pourrait s'orienter vers l'indépendance du royaume danois. Le verdict des urnes établira en tout cas un rapport de force brouillé pendant la campagne électorale par les déclarations fracassantes de la Maison Blanche. Et les recherches se poursuivent au port de Bahia Blanca en Argentine. Des inondations meurtrières y ont emporté la vie d'au moins 16 personnes. Informé de la situation depuis sa chambre d'hôpital, le pape François prie pour les victimes et leurs familles. Il adresse ses condoléances à la nation endeuillée dans un télégramme envoyé lundi soir à l'archevêque de la ville. « Retour en Syrie dans notre dossier ce matin. Fin de l'opération militaire contre les pro-Assad, annonçait hier la défense syrienne. Après une offensive de ces milices pro-Assad jeudi dernier, l'armée syrienne formée des anciens soldats djihadistes du groupe HTS a répondu violemment. Près de 1500 personnes auraient été tuées, dont un millier de civils, dans des exécutions de masse. Des condamnations sont venues de plusieurs puissances mondiales, comme l'ONU, les États-Unis, la Chine, appelant les autorités syriennes à mettre fin à ces tueries. Dans la ville côtière de Banias, une religieuse décrivait hier les cadavres jonchant les rues ou les meurtres contre plusieurs bébés dont elle s'occupait jusqu'alors. Ces violences sont les plus graves depuis l'arrivée au pouvoir d'Ahmad al-Sharr, qui a chassé Bachar al-Assad et pris le pouvoir en Syrie début décembre. Malgré les assurances qu'a données le nouveau chef de l'État, devenu président par intérim, le frère mariste Georges Sabé, installé à Alep, s'inquiète d'un contexte de plus en plus difficile et fragile.
Depuis jeudi soir, il y a eu un vrai massacre. Il faut dire les choses par leur nom. Un massacre ethnique. Et aussi, il y a eu un massacre d'un bon nombre de chrétiens dans ce littoral. Malheureusement, on peut dire que nous sommes dans une situation très délicate qui concerne l'avenir de tous ces groupes de personnes qui ne sont pas sunnites. Nous sommes tous des composants de cette Syrie. Et n'oubliez pas que, à part le littoral où il y a les Alaouites, il y a aussi les Kurdes qui sont au nord-est. Il y a les Druzes. On est dans une situation assez compliquée.
Après l'espoir en décembre dernier qui s'était levé avec la fin de l'ère Assad, on perçoit aujourd'hui comme une forme de désillusion pour les chrétiens en Syrie. Comment ces récents massacres ont impacté la population chrétienne du pays?
C'est une panique pour les chrétiens. Mais je crois que c'est une panique généralisée parce qu'il y a une menace réelle pour le pays d'exclusion, une menace de tuerie, une menace, je peux peut-être parler de génocide pour la communauté alaouite. Cette panique va encore favoriser chez les gens, spécialement je parle des chrétiens, une volonté de partir, de quitter le pays. On n'est pas à l'aise, on ne se sent pas bien. Pourtant, toutes les assurances que nous avons reçues de l'autorité actuelle syrienne proposait vraiment un avenir dans lequel on allait être considéré comme citoyen. Cette attente d'incarner tout ce qui est dit à haute voix, qui n'arrive pas, alors ça crée des peurs. D'après ce que dit le gouvernement, ceux qui ont attaqué, ce sont des groupes de djihadistes, sans aucun contrôle. Mais nous disons à l'autorité, vous êtes responsable de ces gens-là. C'est vous qui les maintenez, c'est vous qui, même s'ils ne sont pas enrôlés dans l'armée, mais ils sont là, il faudrait prendre des décisions contre eux, il faut les éloigner du pays, les éloigner de toute attaque possible. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait encore des vengeances. Il nous faut une justice.
On entend vos appels, vous refusez la vengeance, vous appelez à la justice. Quels sont les chantiers que devrait engager le nouveau gouvernement syrien pour que le pays puisse vivre en paix?
Il nous manque énormément, énormément une proposition de réconciliation. Il n'est pas possible de vivre dans une réalité de peur, de menaces et d'atrocités. Il nous faut tout un travail de réconciliation à l'intérieur de la population syrienne. Et deuxième point, je crois, de justice basée sur une loi, basée sur une constitution que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons besoin aussi d'une pression internationale parce qu'il n'est pas possible que les autorités internationales ne disent pas leur mot à l'autorité locale pour préserver, empêcher qu'il y ait d'autres massacres dans le pays.
Interrogé par Jean-Benoît Harel, le frère mariste Georges Sabé, installé à Alep en Syrie, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi, prend fin cette édition. Grand merci de votre écoute et fidélité aux ondes de Radio Vatican. Rendez-vous à 13h, heure de Rome, pour un nouveau journal et toute la journée sur vaticannews.va.